Qualité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Pour cette journée de la femme, je vous propose de voir comment améliorer la santé maternelle. La mortalité maternelle est 100 fois plus élevée dans les pays à faibles ressources que dans les pays développés. On estime que chaque année, 287 000 femmes meurent en raison de complications pendant la grossesse ou l'accouchement. Alors ce chiffre a certes baissé en gros de moitié en 20 ans, mais on est encore loin de la réduction des trois quarts qui était prévue dans les objectifs du millénaire pour le développement il y a plus d'une dizaine d'années. Alors la plupart de ces femmes décèdent parce qu'elles n'ont pas eu accès à les prestations de soins par du personnel qualifié. Comment renforcer les systèmes de santé? Comment améliorer la santé maternelle? Où en est-on aussi de l'accès à la contraception dans les pays du Sud? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mes invités. Annick Janté, qui est consultante pour l'OMS sur les questions de couverture santé universelle. Catherine Gibouin, qui est responsable du groupe Santé sexuelle et reproductive à Médecins du Monde. Et le docteur Luc de Bernis, qui est conseiller pour la santé maternelle au Fonds des Nations Unies pour la population. RFI. Annick Janté et Catherine Gibouin, bonjour.
Bonjour.
Docteur Luc de Bernis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Dakar, vous au Sénégal, et justement j'ai envie de vous demander d'abord pourquoi êtes-vous là-bas?
Écoutez, c'est une excellente occasion. On est réunis à Dakar avec les collègues de l'OMS, de l'UNICEF et de ONU Femmes, précisément avec le ministère des Affaires étrangères et européennes français, pour discuter de la mise en œuvre, et on est au bout de la première année de mise en œuvre d'un fonds mis à disposition par la France pour toutes ses agences et 9 pays francophones africains plus Haïti sur précisément la santé maternelle et la santé néonatale, c'est-à-dire les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement numéro 4 et numéro 5. Donc, le fait de parler avec vous aujourd'hui tombe extrêmement bien.
Alors, on reparlera de ce que vous faites justement à Dakar en ce moment et des financements de cette question de la lutte contre la mortalité maternelle, parce qu'on sait qu'on a eu du mal pendant longtemps à trouver des financements. J'aimerais bien qu'on commence par parler de l'accès à la contraception dans les pays du Sud. Docteur Luc de Bernis, de façon assez générale, on en est où de cet accès?
Alors écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que la planification familiale est redevenue une priorité, y compris à la fois pour les pays qui ont toujours des taux de prévalence contraceptive extrêmement faibles, et donc une démographie qui reste galopante. Les études récentes dans un certain nombre de pays sahéliens le montrent bien. Et puis la communauté internationale qui s'est réunie récemment, il y a eu un très important sommet à Londres sur le planning familial avec des promesses importantes de financement. Et il y avait eu l'année dernière déjà un sommet organisé par les États-Unis, l'Agence de développement américaine et la France sur précisément le planning familial dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc on est dans une dynamique qui a totalement changé ces derniers mois avec des financements qui sont certainement beaucoup plus importants et des gouvernements qui aussi se mobilisent sur cette question. Évidemment, la question de la population est importante pour le développement socio-économique, mais c'est aussi une question de droit, de produire, de donner à chacune des femmes et à chacun des couples, donc hommes et femmes, le droit à accéder à des produits de contraception lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils le désirent, et que ces produits soient compatibles avec ce qu'ils souhaitent. Donc il faut à la fois avoir accès aux services, mais aussi à une série de méthodes complémentaires les unes des autres que les femmes et les hommes peuvent utiliser suivant leur situation particulière.
Catherine Gibouin, une réaction par rapport à ce que vient de dire Luc de Bernis. Vous travaillez, vous, à Médecins du Monde. Vous sentez effectivement là une évolution, une prise de conscience de l'importance de cet accès à la contraception?
Oui, tout à fait. Je pense que je me félicite, comme le faisait Luc de Bernis, de la montée de cette question sur l'agenda international. Tout d'abord parce que c'est un enjeu, y compris sur la réduction de la mortalité maternelle, puisqu'on estime que l'accès à la contraception pourrait contribuer à 30% de la réduction de la mortalité maternelle. Donc je pense que c'est un élément de santé publique majeur. C'est un élément de droit pour les femmes. J'ai une toute petite inquiétude qui est sur une approche qui est un peu verticale. même si je me félicite des enjeux financiers, des engagements financiers, et je trouve qu'il faut parler de santé publique, il faut parler du droit. Je suis pas très à l'aise avec l'argument démographique qui me paraît un peu périlleux, parce que je crois que c'est éventuellement contre-productif.
Et entre autres, ne laisse pas la liberté aux femmes de choisir ce qu'elles veulent faire.
C'est, tout à fait.
C'est ça. Vous étiez, quand on préparait cette émission, on m'a dit que vous étiez récemment à Gaza. Vous avez travaillé sur ces questions d'accès à la contraception, justement.
Oui, Gaza est un lieu assez passionnant pour les démographes. Je suis pas démographe, mais ils ont fait une transition. Ils n'ont pas fait de transition démographique, mais ils ont fait une transition médicale. Donc, c'est assez étonnant. Mais effectivement, c'était le plus fort taux de fertilité dans le monde il y a une dizaine d'années. Néanmoins, aujourd'hui, la fertilité a sensiblement diminué. On doit être à peu près à 5 enfants par femme. Ce qui est, on est passé de 7 à 5 en relativement peu de temps. Il y a un accès à la contraception. Mais comme le disait Luc de Berny, je pense qu'il y a vraiment un enjeu sur la présence d'une offre adaptée, sur une variété des méthodes et sur la qualité des professionnels de santé pour vraiment conseiller les femmes, parce que on constate quand même que beaucoup de femmes sont très très inquiètes, comme nous on l'était il y a pas très longtemps non plus, et de l'importance d'écouter les femmes dans tout ce qui est effet secondaire. Et on voit beaucoup de femmes qui commencent une méthode et qui arrêtent, qui ne changent pas. Enfin, il y a beaucoup d'échecs et de d'arrêts de contraception en cours de route, quoi.
Et justement, le frein, il est plus culturel que financier, ou ce sont les deux? C'est quoi? Ou ce problème d'effet secondaire, il est où, le frein?
Il est multiple déterminants, il est multifactoriel. Je pense qu'il y a effectivement des aspects sociaux. Je pense que la dimension religieuse est pas à négliger, mais elle est parfois surdéterminée. Souvent, les femmes ont intériorisé des interdits qui n'existent pas, en particulier dans la religion musulmane. La religion chrétienne est moins flexible que la religion musulmane sur cette question-là. Il y a des freins économiques et il y a des freins sociaux sur l'autorisation du conjoint. C'est intéressant. Je discutais avec quelqu'un du ministère de la Santé du Niger. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il fallait l'autorisation du mari pour aller à une consultation de contraception. Et aujourd'hui, il y a une loi qui permet à une femme d'aller à une consultation de planning familial sans avoir la carte d'identité de son conjoint.
Annick Janté, une réaction par rapport à ces freins?
Une réaction, non, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes deux prédécesseurs sur ce sujet. Moi, je sais qu'effectivement, enfin, ce qui est important, c'est de toucher les adolescentes aussi, parce qu'il y a 14 millions d'adolescentes par an, hein, qui se retrouvent enceintes, dont 90% en Afrique subsaharienne. Donc, c'est aussi, c'est des chiffres qui parlent et qui expliquent que, on n'en est pas encore là où il faut en question, en matière d'accès à la contraception, d'accès au planning familial, d'information, comment informer les jeunes filles, les garçons, comment effectivement ouvrir ce droit et faire comprendre au gouvernement que c'est clé, que c'est essentiel. Et que il y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, que j'ai trouvé, je crois que c'est dans un des rapports de l'OMS, qui dit que améliorer la santé de la femme, c'est rendre le monde meilleur. Et la santé de la femme, ça commence très très tôt, et c'est tout au long de sa vie, quoi. C'est de la naissance jusqu'à la vieillesse, et avec des moments très très importants qui sont vulnérables, comme effectivement toute la période de pubère et dans lesquelles il faut vraiment prendre soin des femmes.
Et d'ailleurs, Annick Janté, en quoi l'accès à la contraception est aussi un moyen de lutter contre la mortalité maternelle?
Bah, c'est parce que effectivement ça permet de réduire justement le nombre de femmes qui tombent enceintes, et que comme du coup les moyens aussi, quand il y a des complications, comme vous disiez tout à l'heure, quand il y a des complications, quand une femme est enceinte et qu'elle a pas les moyens de se faire soigner, ou qu'elle accouche à la maison et qu'il y a pas de il y a des complications, et que du coup l'enfant et la mère meurent, le fait d'avoir un accès à la contraception, c'est évidemment ça permet évidemment de réduire la mortalité des femmes enceintes et des femmes qui accouchent, etc.
Luc de Berny, deux réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord sur cet accès à la contraception qui permet de lutter contre la mortalité maternelle, et puis après sur la question des grossesses précoces.
Oui, non, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que il faut aborder le problème des populations et du développement avec beaucoup de clarté et d'honnêteté. Les études qui sont produites, qui montrent les progressions de la population, permettent au gouvernement justement de prendre la mesure du problème et de planifier et de se rendre compte de l'importance de donner le droit, et il s'agit bien d'un droit, à toutes les femmes, encore une fois, de choisir combien d'enfants, quand est-ce qu'elles en veulent, etc. Et en général, on s'aperçoit que quand il y a accès à la contraception, eh bien, les femmes expriment très bien le besoin de réduire le nombre de grossesses. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Le problème de l'accès des adolescents est un problème extrêmement critique, puisque justement ce groupe de population est en train de grandir très très vite et pour l'instant n'a pas ou très très peu d'accès aux soins de santé de la reproduction, donc à la contraception. Puis je voudrais juste reprendre très rapidement un point très important qui a été noté par Catherine Gibouin sur la verticalisation, sur le fait que lorsqu'on parle de planning familial, il ne faut pas en parler de manière séparée, mais qu'il faut justement associer le planning familial à tout le reste de l'effort sur la santé maternelle et la santé des enfants. Donc, l'intégration des services, en particulier, faire que lorsqu'une femme va pour un besoin de sa grossesse, par exemple, consulter, qu'elle ait en même temps l'éducation et la formation qui lui est nécessaire sur le planning familial, elle va en avoir besoin à la fin de sa grossesse, ou parce qu'elle planifie une grossesse. Et puis en même temps que le VIH, puisque là aussi, il faut s'assurer que dans une même consultation, la femme puisse avoir l'information qui concerne aussi la prévention et éventuellement le traitement si elle était séropositive. Donc je trouve que ce point sur l'intégration des services est extrêmement important, d'autant plus qu'il est coût efficace, c'est-à-dire qu'il permet de faire des économies.
Priorité Santé, Claire Hédon.
Et aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, on parle de la santé maternelle à l'occasion de la journée de la femme. On vient de parler longuement de cette question de l'accès à la contraception. L'autre point, c'est la lutte contre la mortalité maternelle. Les chiffres, d'abord, ont quand même beaucoup baissé. Annick Janté, on est à 287 000 femmes qui meurent des complications de la grossesse ou de l'accouchement. On était à plus de 500 000 il y a quelques années.
Oui, il y a eu un vrai progrès parce qu'il y a eu une vraie mobilisation. Alors c'est vrai que, comme on en discutait là tout à l'heure, c'est que il y a eu une vraie diminution récemment. Il y avait 530 000 femmes qui mouraient chaque année des suites de problèmes d'accouchement et on est passé à 287, mais dans les 10 dernières années en fait.
Et c'est 530 000, c'était même en 2005 encore ou en 2003.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc là vraiment, et c'était un chiffre qui venait des années 90. Alors après, effectivement, il faut se méfier aussi des chiffres et de la comptabilisation, des sources, etc. Comment on arrive à obtenir toutes les données fiables sur ces questions-là, mais ça restait quand même un chiffre énorme.
Comment ces progrès alors ont été possibles justement ?
Ils ont été possibles, je pense, entre autres, pas seulement, mais grâce, je pense, aux objectifs du millénaire qui ont permis aussi de faire prendre conscience au monde et aux décideurs, aussi bien au niveau des gouvernements que des institutions internationales, qu'il fallait absolument adresser ces problèmes-là de manière très précise avec des objectifs, des engagements, des indicateurs et un suivi des progrès réguliers dans les pays. Donc voilà, ça mobilise. Du coup, quand ça mobilise politiquement, ça mobilise derrière financièrement. Donc il y a des engagements financiers qui sont pris et du coup quand il y a des engagements financiers on voit aussi la différence. Alors on peut après dire bien, pas bien utilisé, etc. Si grosso modo on peut dire que les progrès sont réels, ils sont pas suffisants puisqu'on en est encore loin, hein. On n'a même pas encore arrivé à la moitié alors que l'objectif numéro 5
c'était les trois quarts.
Donc on n'a pas encore obtenu satisfaction à ce niveau-là, mais il y a un vrai progrès. Et puis, effectivement, ça a permis de se concentrer sur la santé des femmes et des enfants, ce qui est quand même essentiel.
Luc de Bernis, vous suivez tout ça pour le Fonds des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour la population depuis déjà un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui a fait que ces progrès ont été possibles et quels sont les pays qui ont avancé et pourquoi ?
Oui, écoutez, je répondrai un peu la même chose. Je pense que les progrès ont été possibles parce que d'abord, on a mis cette question comme une priorité au niveau mondial. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de présidents de la République, de premières dames, de ministres se mobiliser réellement et honnêtement sur cette question. penser que le président du Tchad, par exemple, a une réunion mensuelle sur la question de la santé maternelle et de la morbidité maternelle. Donc ce sont des choses qui évoluent et je pense que les OMD ont largement contribué à ça. Immédiatement, on l'a dit, il s'agit d'estimer, donc il faut toujours être un peu prudent, mais quand même, ce qui se dégage, c'est quand même que l'Afrique porte maintenant le plus gros fardeau de la mortalité maternelle mondiale, plus de la moitié, et que l'Afrique sahélienne, et donc en particulier les pays francophones, sont maintenant les pays où la mortalité maternelle est probablement la plus forte du monde. Donc c'est vraiment une question pour nous francophones extrêmement importante. Même au sein des Nations Unies, il faut faire un effort particulier sur ces questions-là.
Justement, Luc de Bernis, excusez-moi de vous interrompre, mais pourquoi cette différence qu'on constate, nous, tout à fait sur le terrain, entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, en termes de progrès de santé, particulièrement de santé maternelle ?
Elle est difficile à expliquer, y compris dans des pays qui ont un taux de croissance économique similaire. Et on sait très bien que le progrès socio-économique fait beaucoup, n'est-ce pas, pour la santé en général et la santé des femmes en particulier. Mais je pense qu'il y a des questions culturelles, évidemment, qui rentrent en jeu, mais aussi peut-être des priorités dans les investissements. Pour réduire la mortalité maternelle et la mortalité néonatale en particulier, il faut investir dans les systèmes de santé. Il faut que les personnels soient formés, que ces personnels soient déployés, qu'ils soient accessibles et qu'ils produisent des soins de qualité. Tout cela est une orchestration complexe. C'est un défi pour des pays pauvres où les choses ne sont pas toujours bien organisées, n'est-ce pas ?
En schématisant un peu, on peut dire que c'est quand même plus compliqué que de distribuer de simples médicaments.
C'est tout à fait plus compliqué. Il nous faut des médicaments, donc la question de la distribution des médicaments est essentielle. Il faut des médicaments, il y a une commission maintenant qui travaille spécifiquement sur cette question en suivant des médicaments très particuliers qui ont le pouvoir évidemment de sauver des existences, des vies. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au même moment, il faut qu'il y ait l'équipement qui fonctionne, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait de l'eau en général. Si possible, il faut qu'il y ait un personnel qualifié qui soit là 24 heures sur 24 et qui permette de référer une patiente lorsqu'il y a une complication qui surgit. Et on sait que les complications sont imprévisibles pour la plupart. Donc c'est compliqué. Imaginez qu'un SAMU à Paris, c'est quelque chose de très complexe et difficile et qui coûte cher. Donc imaginez un système qui fonctionne 24 heures sur 24 dans un district rural du Niger. C'est une chose difficile. Et là, la mobilisation des populations, le fait que les populations sentent que c'est leur système de santé et qu'ils peuvent faire quelque chose, il y a une expérience, on n'aura pas le temps d'en parler, mais une expérience fantastique qui se déroule au Niger en ce moment, d'éradication de la fistule obstétricale, de réduction de la mortalité maternelle, simplement par la mobilisation communautaire et la meilleure utilisation du système de santé. Donc,
il y a des résultats déjà, par exemple,
que c'est possible.
Pour revenir sur le Niger, il y a déjà des résultats ?
Il y a des résultats qui vont être publiés incessamment, que je ne peux pas dévoiler, mais je peux vous dire qu'en un an, les fistules ont disparu, et en deux ans, la mortalité maternelle par manque d'accès à la césarienne pour une dystocie mécanique, donc pour un accouchement difficile mécaniquement, a totalement disparu. Donc, en santé maternelle, on connaît les solutions, il faut les appliquer sur le terrain. C'est toute la difficulté que les pays ont à faire face.
Si vous voulez bien, Luc de Bernis, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. On reviendra quand même sur cette question de savoir pourquoi l'Afrique anglophone avance plus vite que l'Afrique francophone, même si vous venez nous citer l'exemple du Niger. Mais je sais que dans beaucoup d'autres émissions, vous nous avez souvent cité, entre autres, l'exemple de l'Éthiopie. On y revient dans 3 minutes, juste après les infos.